Nous sommes en compagnie de Carole Brackmann, consultante de Feng Shui à Lille. Avec elle, nous abordons le Feng Shui, donc cet art ancestral chinois devenu aujourd'hui à la mode en Europe, dans la santé, l'urbanisme et la décoration, et qui épuise ses traditions dans l'ancienne géomancie chinoise. Alors Carole Brackmann, pourquoi vous êtes-vous intéressée au Feng Shui, qui appartient à la tradition chinoise, vous qui n'êtes pas chinoise?
Alors moi je suis venue au Feng Shui par l'énergétique en fait. J'ai commencé un jour où j'allais pas bien dans ma vie à pratiquer une sorte de tai chi, et j'ai découvert l'énergie du corps humain, et j'ai été assez stupéfaite parce que je sentais des mouvements dans mon corps, et ça me semblait tout à fait fascinant. Et quand on m'a parlé du Feng Shui, moi qui étais très très rationnelle, j'ai dit oui, c'est n'importe quoi. Et j'ai pas voulu trop y regarder, mais quand même je me suis dit c'est bizarre quand même. Tu peux pas rejeter ça, on te parle d'énergétique des lieux. L'énergétique des corps, tu croyais tout savoir, tu t'es rendu compte que tu étais une vraie débutante. Et finalement, est-ce que l'énergétique des lieux, faudrait pas que tu y regardes aussi avec un œil un peu critique quand même? Et j'ai lu un livre et j'ai appliqué tous les conseils du livre et j'ai été fascinée.
Donc vous avez commencé par le corps avant de vous intéresser à l'environnement.
Absolument.
Alors vous avez parlé de notion d'énergie, je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant de ce que c'est que le chi, vous pouvez peut-être préciser.
Alors le chi, c'est l'énergie qui nous entoure, c'est l'énergie de l'environnement, c'est l'énergie, chaque être vivant a du chi. Un arbre dégage une énergie particulière, les cailloux, les pierres dégagent des énergies, et les êtres humains, bien sûr. Et les lieux, pour ce qui concerne le feng shui, ont leur propre énergie. Et le feng shui consiste à réguler toutes ces énergies pour faire une jolie symphonie.
Alors vous dites que vous avez finalement appris dans un livre. Alors déjà, on aimerait savoir lequel, et puis ensuite, comment on fait pour apprendre dans un livre? Moi, ça m'a toujours semblé bizarre.
Alors j'ai d'abord appris dans un livre, après je suis passée par des formations, d'abord appris dans un livre qui ne serait plus celui que je vous recommanderais parce que ça c'était il y a 15-20 ans, je ne sais plus très bien, mais enfin bon, il y a assez longtemps. À l'époque c'était le seul livre qui existait en français, il s'agissait du livre de Sarah Rosbach, mais depuis le Feng Shui a fait mode comme vous savez, et donc il y en a bien d'autres qui sont parus, et il y en a au moins deux que je pourrais vous conseiller. Il y a le Feng Shui pour les nuls, qui est assez bien fait ma foi, avec quelques bémols, mais comme pour tous je dirais, et un autre qui est de Eva Wong, qui est Leçon approfondie de Feng Shui.
Alors, et puis en tout cas pour mieux comprendre en termes historiques le Feng Shui, il y a toujours le livre de Frédéric Aubringer, Feng Shui, l'art d'habiter la Terre. Alors justement cet art d'habiter la Terre, le Feng Shui, est-ce que c'est une philosophie du bonheur ou un art de vivre ou quoi d'autre?
Les deux. C'est les deux. C'est une façon d'appréhender la vie, effectivement. Et c'est aussi une façon de s'intégrer à un environnement, qui est un environnement pour les Chinois. On est, nous, entre terre et ciel. Et on essaie, avec le Feng Shui, d'être le mieux placé, si je puis dire, pour tenir notre rôle entre terre et ciel, nous, petits individus humains.
Alors, comment on fait pour tenir ce rôle? Le principe du fonctionnement de base du Feng Shui? Pour les nuls, justement.
Alors, pour les nuls, on équilibre l'énergie de son lieu de vie, hein, avec des petites choses qui sont relativement faciles, je dirais, qui sont de tenir compte des flux énergétiques de votre lieu de vie et les réguler de façon à ce que vous ayez assez d'énergie pour être en bonne santé, vivant, etc., heureux. On va jusque-là. Et aussi, pas trop, parce que trop d'énergie pour un être humain, c'est pas terrible.
Ah oui, voilà, ouais. Autre chose.
Absolument.
Trop d'énergie, c'est pas bien. Évidemment, dans tout ça, il y a le yin et le yang.
Absolument. On cherche l'équilibre, en fait. On cherche l'équilibre et le yin-yang, en fait, permettent de trouver dans toutes les choses, d'ajuster dans toutes les choses le trop ou le pas assez.
C'est un peu de la médecine chinoise.
Absolument. C'est la médecine de l'habitat. La médecine chinoise de l'habitat, bien sûr. Les deux savoirs se recoupent tout à fait.
Alors il y a une histoire de cinq éléments aussi qui doivent être en harmonie, à l'abri du vent et à proximité de l'eau douce. C'est pas toujours facile.
Non, c'est pas facile de réguler un lieu effectivement. Le Feng Shui est un art très sophistiqué, très complexe. Et en même temps, il y a quand même quelques conseils de base qu'on peut appliquer et qui permettent d'aller vers plus d'harmonie chez soi. Les cinq éléments étant une des parties aussi de la médecine chinoise, bien sûr, qui permettent de... les cinq éléments, ça représente le microcosme, en fait.
Alors, les cinq éléments, c'est quoi?
Et alors, il y a le bois, il y a le feu, il y a la terre, le métal et l'eau. Et chacun a une énergie, et chacun d'entre nous a aussi une énergie, un type d'énergie, et on essaie d'harmoniser l'énergie des lieux et l'énergie de la personne qui est individuel.
Alors feng shui, si je ne me trompe pas, ça veut dire vent et eau, ou eau et vent, je ne sais pas dans quel sens. Alors pourquoi c'est si important dans la civilisation chinoise ?
Pourquoi le vent et eau sont si importants dans la civilisation chinoise ? Ça fait partie de, comment je vais dire, de la pensée du... Toujours de ce que je disais tout à l'heure, la pensée de l'homme dans son environnement et dans le monde, le vent apportant la mutation et l'eau aussi. L'eau est l'élément le plus fluide qui soit, celui qui atteint tous les autres aussi, qui peut venir à bout de tous les autres. Il a une présence constante, hein, et donc les deux mêlés apportent la fluidité du mouvement pour l'individu dans son environnement.
Et il est important que l'individu soit en mouvement.
Il est important que l'individu soit en mouvement. Nous sommes basés sur l'art du mouvement aussi.
Hein. Oui, c'est vrai, tai chi, etc.
Tai chi, etc. Le tai chi qui est le symbole magistral de yin et du yang, hein, intervient énormément aussi au niveau du feng shui.
Alors les animaux sont importants aussi.
Alors les animaux, ça c'est plus folklorique, c'est plus ça vient après, ça vient avec l'astrologie chinoise et c'est une vision très très réductrice de l'astrologie chinoise que les cinq animaux.
Alors on parle d'astrologie certes, mais finalement le plus important c'est la cosmologie pour comprendre tout cet ensemble de choses.
Absolument, absolument. On intègre un individu dans un ensemble beaucoup plus vaste qui le dépasse et en même temps dans lequel il faut qu'il joue sa note, si je puis dire. Hein. Et grâce au feng shui, on permet aux individus de jouer au mieux possible leur note. Le feng shui permet également de s'ajuster à ce qui... de repérer nos fausses notes, si je puis dire, et de s'ajuster de façon à produire des notes qui soient plus justes.
Alors la numérologie que l'on classe chez nous dans les superstitions est très vivace en Chine, on l'utilise aussi dans le feng shui.
Tout à fait, tout à fait. Il y a en fait deux grandes écoles de feng shui. Il y a l'école dite de la boussole, qui utilise effectivement la numérologie, l'astrologie chinoise. Et il y a une autre école qui est l'école dite de l'énergie, l'école de la forme, et qui, elle, se sert beaucoup moins de ce qui est numérologie. Mais pour autant, chacune des deux écoles a sa validité. L'une est plus sophistiquée dans le sens où elle va compter, élaborer des calculs savants pour trouver comment l'individu, vous en l'occurrence, peut s'intégrer dans son environnement. L'autre va beaucoup moins tenir compte des paramètres personnels, mais en même temps, elle est plus, je dirais, sensible, puisqu'on va en finesse aller réguler des énergies et sentir des énergies sur un lieu et repérer des choses qu'on ne repère pas avec des calculs.
Alors votre école, c'est la seconde, celle de l'énergie ?
Alors je me suis formée dans les deux écoles. J'ai commencé par la seconde, évidemment, puisque je vous dis que je suis venue au feng shui par l'énergie du corps. J'ai commencé par la seconde, mais après je me suis formée dans la première parce qu'il me semblait que les deux méritaient d'être interrogés déjà. Hein. Et finalement, quand je pratique un peu des deux. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de tai chi, donc rien à voir avec le feng shui,
encore
mais qui était
que.
Un chinois, et qui m'a appris à marier les deux écoles, parce qu'on peut être très très perplexe. Les deux écoles peuvent sembler très contradictoires parfois.
Hein. Alors le Yiking a sa place dans le feng shui. D'abord, on pourrait dire ce qu'est le Yiking.
Alors le Yiking, c'est le livre de sagesse des Chinois. Moi, je conseille à toute personne qui veut approfondir la pensée chinoise de plonger dans le Yiking, parce que c'est vraiment un livre merveilleux pour comprendre la pensée chinoise.
Et en tout cas, plonger est le terme exact, parce qu'au départ, c'est quand même assez broussailleux.
Je vous l'accorde même après. Pas que au départ.
Moi, j'en suis restée au départ, c'est pour ça.
Non, tout à fait, c'est complexe. Bah, le Yiking nous bouleverse complètement, parce que, par exemple, au moment des tirages, le Yiking est aussi un livre qui peut être divinatoire. Mais au moment des tirages, on ne pose pas une question, on pose deux questions. La question et son contraire. Alors évidemment, pour des Occidentaux qui sont assez binaires, ma foi, c'est très très troublant.
À notre raison, on prend un coup quand même avec cette histoire.
C'est clair. Et donc, le Yiking est une façon à emprisonner, si je puis dire, dans 64 hexagrammes, le monde entier. Et les différentes façon dont la vie peut se comporter vis-à-vis de nous et dont nous pouvons, nous, du coup, agir par rapport à la vie et tout ce qu'elle nous présente.
Oui, donc c'est des traits. Hein,
ce sont des traits, des hexagrammes, oui, tout à fait.
On ne peut pas voir à la radio. Il fallait quand même une sacrée imagination pour créer cette façon d'expliquer le monde.
Tout à fait. Mais je pense que les Chinois ont une connaissance du monde qui nous échappe à nous, Occidentaux, qui sommes beaucoup trop dans la raison, qui est une connaissance sensible. et intuitive du monde. Et ma foi, nous avons beaucoup à apprendre d'eux pour réintroduire en nous cette partie intuitive que nous avons un peu sabrée depuis quelques décennies, je dois dire.
On parle de Feng Shui depuis quand dans l'histoire chinoise ?
Dans l'histoire chinoise, on parle de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ou 20 000 ans avant Jésus-Christ.
Ouf, oui. Un zéro, c'est important.
Oui, je suis fâchée avec les chiffres. On parle de Feng Shui d'abord pour les morts. On cherchait d'abord à enterrer ses morts, bien, de façon à ce qu'ils puissent veiller de façon très bienveillante sur les vivants. Hein. Le Feng Shui, c'est d'abord l'art d'enterrer ses morts. On cherchait une configuration géographique particulière pour enterrer ses morts. Et puis après, ça a dévié, si je puis dire, vers les vivants, et nous en sommes ravis.
Oui, on s'est dit que finalement, les morts, c'était bien, mais ils étaient morts, mais que nous, on pouvait peut-être en profiter. Il y a un âge d'or, où on peut dire que c'est maintenant.
En Occident, c'est maintenant.
Oui, ça et en Chine.
En Chine, ça a été avant Mao. Après Mao, les éminents sinologues et experts Feng Shui ont un peu fui la Chine. Ceci étant, je pense que dans la culture chinoise, il reste un joli vernis de Feng Shui.
On dit que le Feng Shui est un art taoïste, mais est-ce que le chamanisme, bien avant Lao Tzu, n'a pas influencé la mise en place de la notion de Feng Shui ?
Je dirais que le Feng Shui, c'est la façon chamanique chinoise de penser le monde, bien sûr, bien sûr.
Très bien. Alors, la cosmologie chinoise, on en a parlé. Je crois qu'il faut prendre un livre et puis se mettre le nez dedans. Les passerelles entre le Feng Shui et la médecine traditionnelle et l'acupuncture, on peut insister un petit peu plus dessus ?
Oui, bien sûr. Alors, vous considérez que votre corps, enfin, tout le monde connaît l'acupuncture, donc je vais partir de là. Votre corps a des circuits d'énergie qu'on régule en appuyant sur certaines zones, avec des aiguilles, hein, sur certaines zones. C'est la même chose pour le Feng Shui de l'habitat. Vous pouvez considérer que l'habitat, c'est un corps un peu plus grand. Et ce corps se régule aussi en appuyant sur certains points de l'habitat. Et le corps de l'habitat peut être déréglé, au même titre qu'un corps humain est déréglé. Et l'art du Feng Shui consiste à réguler le corps, comme l'acupuncteur va réguler le corps humain. L'art du Feng Shui consiste à réguler l'habitat.
Alors cela dit, à certaines villes chinoises, on se demande comment ils ont régulé l'habitat par rapport à ce qu'on y voit. C'est assez impressionnant parce qu'aujourd'hui, dans les villes chinoises, par exemple Hong Kong, dit-on, est construite selon les règles du Feng Shui.
Alors, je ne suis pas sûre que tout Hong Kong soit construit sur les règles du Feng Shui. Certains bâtiments célèbres d'Hong Kong le sont, oui, c'est sûr. Mais tout Hong Kong, maintenant, je pense qu'ils ont été un peu débordés.
Oui, à Shanghai, à Shanghai aussi, ils sont débordés.
Je crois, oui.
Effectivement. Il y a une dimension spirituelle au Feng Shui ?
Oui, bien sûr. La façon dont le Chinois se pense, et donc nous, maintenant, occidentaux, se pense dans le cosmos, est une façon spirituelle d'envisager la vie. On n'est pas coupé de l'ensemble. Alors c'est une façon plus chamanique, comme vous diriez tout à l'heure, de se penser comme étant un individu dans un grand tout. Hein. Mais bien sûr, c'est très tout à fait relié à la spiritualité.
Alors un exemple concret, est-ce que ce studio est Feng Shui ?
Mon Dieu, non ! Alors, vous me faites tourner le dos à une fenêtre par laquelle les gens rentrent.
Oui. C'est vrai, eux vous voient, vous ne les voyez pas.
Je ne les vois pas, je suis extrêmement exposée. Heureusement, il y a une vitre et vous me surveillez mes arrières. Sinon, non, ce n'est pas du tout Feng Shui. Je vous ai aussi fait couper la climatisation qui arrivait juste sur mon crâne. Et le crâne, l'endroit du chakra coronal de la fontanelle, est l'endroit le plus sensible du corps humain au niveau énergétique. Donc j'aurais été très très malheureuse et j'aurais dû prendre beaucoup d'énergie pour pouvoir pallier cette présence de clim au-dessus de moi, quoi, au-dessus de ma tête.
Alors en dehors de toutes ces considérations, est-ce que le fait que cette pièce n'ait pas de vue sur l'extérieur, n'ait pas de fenêtre par exemple sur la nature, est-ce que c'est pas Feng Shui ça ?
Ben, c'est mieux avec, c'est clair. C'est clair que les circulations se font entre portes et fenêtres. Les circulations d'énergie se font entre portes et fenêtres. Et là, vous ouvrez une porte, on a des vitres dans le dos, on a des vitres en face, mais il n'y a effectivement pas d'air frais qui rentre. Et ça, c'est très important.
Donc,
c'est
pas de
l'énergie,
souffle.
Pas de souffle.
Alors, donc, il faudrait percer une fenêtre, en quelque sorte.
Et... Oui, absolument.
Enfin, tout ça veut dire qu'il y a bien des lieux où les gens travaillent aujourd'hui et qui ne sont évidemment pas Feng Shui.
Tout à fait. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y a des nouvelles constructions qui me font peur, moi.
D'ailleurs, en termes de construction, la hauteur, ça peut être Feng Shui en faisant 40 étages.
Tout à fait. Ça peut.
Alors pourquoi le feng shui est à la mode aujourd'hui en Occident, à votre avis?
Je pense qu'en Occident, on est très attaché à son intérieur. Hein, ça fait partie de l'art de vivre à l'occidental, son chez-soi, son cocooning. On a bénéficié, si je puis dire, de la fuite des cerveaux de Chine, qui sont du coup arrivés en Occident et qui ont commencé à en parler. Alors d'abord, ça a été dans les pays anglo-saxons, d'abord en Amérique, puis seulement en Europe, les Français étant bien les derniers à la traîne. Moi, j'ai commencé à me former à Amsterdam, à Londres, et pas du tout en France. Et c'est maintenant seulement, depuis, on va dire, 5-10 ans, qu'il y a des écoles en France. Je pense que ça répond à un besoin de plus en plus, qui va avec l'air du temps aussi, de plus de cocooning chez soi, de plus de zénitude aussi, puisque c'est aussi devenu à la mode. On est un petit peu malmené par un monde qui va très vite. Hein. On a tous l'impression que notre vie va trop vite. Et le feng shui, c'est comme une promesse de vous aider à apaiser un peu tout ça.
C'est une sorte d'anti-stress ?
C'est une sorte d'anti-stress, tout à fait. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, parce que ça peut être aussi une façon d'avancer dans sa vie et de prendre conscience de qui on est et ce qu'on veut faire de sa vie et comment on veut avancer et vers quoi on va. Et c'est quelque chose qui peut être tout à fait un chemin initiatique.
Simplement en se posant des questions sur la place des objets dans sa maison ?
Simplement en interrogeant la façon dont on a choisi sa maison déjà. Le choix de la maison est déjà très important. C'est comme une photographie à un instant T de qui vous êtes. Hein. Et puis aussi en regardant comment vous agencez votre maison. Et effectivement, en questionnant des objets, etc.
Mais pourquoi là ? Pourquoi cela, à cet endroit-là ?
Absolument. Hein. Mm-hmm. Et comment ça résonne ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de moi, de qui je suis ? Moi, quand je fais des visites feng shui, en général, les gens sont très troublés. Parce que j'ai comme une science de qui ils sont, alors qu'ils ne m'ont rien dit d'eux. Mmh. J'ai juste leur plan, je vais chez eux, et je sais leur dire, mais ça ne va pas du tout, votre couple, ça ne tient pas, ça chamaille. Alors il y a à la fois le ressenti dans la maison, mais aussi le travail sur plan, qui est assez... Et ce n'est pas que je sois sorcière, c'est vraiment juste que j'applique des règles du feng shui, de cet art ancestral.
Et donc là, on retrouve le yiking, etc.
Absolument.
C'est parce qu'en fait, le plan de la maison a des correspondances avec toute une explication.
Absolument, tout à fait.
Et donc, dans une consultation feng shui, vous arrivez juste avec le plan de la maison, c'est tout?
Alors, on m'envoie le plan quelques semaines avant. Hein. Moi, je commence à étudier le plan, il y a des choses que je regarde tout de suite et je sais déjà dire plein de choses rien qu'en regardant le plan. Et puis également, je laisse un peu, je vais dire, vivre mon intuition sur les plans. C'est comme si je laissais parler le plan. Hein. Et puis après, je me déplace et pendant une demi-journée, je visite l'ensemble du lieu et je donne des conseils. Et je dis, là, vous voyez, j'ai repéré ça sur le plan, ou là, oh mon Dieu, ça figurait pas sur le plan, mais vous avez vu là ce que vous mettez comme bâton dans les roues pour avancer dans votre carrière. Par exemple, il y a une image de naufrage dans le coin carrière, qui est un coin haut. Bon, si vous mettez un tableau qui représente un naufrage, vous ne vous offrez pas beaucoup de chance dans votre carrière. Bon, il y a des choses comme ça que je ne peux voir que des visu sur place.
Ça peut surprendre, j'imagine.
Ça peut surprendre.
En tout cas, on sait maintenant que le studio n'est pas feng shui, il va falloir faire quelque chose. Carole Brackmann, on vous joint à quel numéro ?
J'ai un blanc. Si je viens de changer de numéro de téléphone, je vais vous dire mon portable. 06 23 25 84 40.
Voilà, au cas où vous souhaiteriez savoir si votre habitat est feng shui ou ne l'est pas. Carole Brackmann, merci. On vous retrouve avec Frédéric Aubringer, chargé de recherche au CNRS et auteur de Feng Shui, l'art d'habiter la Terre aux éditions Piquier, le jeudi 19 novembre à 18h30 à la Maison Folie Beaulieu à l'Homme, dans le cadre de Au pays du Lotus Bleu, regard sur la Chine.